Ramadan, un mois de piété, de partage et de spiritualité.
Ba'akoum fi Ramadan, le magazine qui vous accompagne avec des sujets enrichissants,
des invités inspirants
et des conseils pratiques pour vivre pleinement votre mois sacré.
Ensemble, célébrons ce mois de partage et de solidarité. Ba'akoum fi Ramadan.
h 04 à l'écoute des programmes d'LG Chaîne 3. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur nos ondes pour ce nouveau numéro de Ma'akoum fi Ramadan, un moment de partage, de réflexion et de bien-être que nous vivons ensemble tout au long de ce mois sacré. Ce mercredi, la créativité, la passion et l'inspiration sont à l'honneur avec nous, Feli Elghasmi, ici RM architecte designer qui vient nous dévoiler, entre autres, les coulisses du magnifique décor de la série Fatma. Autre invitée dans les studios, Lydia Ladjouzi, artisane passionnée. Elle vient nous parler de sa boutique éphémère, ouverte jusqu'à la fin de ce mois de mars. Et puis, Shahrazad Bouhadi de la librairie Tout Compte Lu est avec nous également. Avec elle, on verra comment encourager la lecture pendant les vacances scolaires pour éloigner nos enfants de leur écran. Voilà le programme de ce mercredi. Excellente matinée sur LG Chaîne 3.
Confirmdan, une émission pensée pour vous.
La Confirmdan, une émission pensée pour vous.
Et on est ensemble jusqu'à midi. Merci à toutes celles et à tous ceux qui viennent de se joindre à nous dans Ma Confirmdan, émission réalisée par Injin Hia. La technique, c'est Sadir Habiresh qui nous accompagne cette matinée. Et à la régie d'antenne, c'est notre ami Tahar Lefgoum. Et nos invités, déjà installés dans les studios d'LG Chaîne 3, un plaisir de les accueillir. C'est un plateau féminin hein, pour cette avant-dernière émission du mois de Ramadan. J'accueille avec beaucoup de plaisir Feriel Ghasmi et Siyah. Merci mille fois d'avoir dit oui à notre invitation. On est ravis de vous avoir ce matin.
Ah ben c'est moi qui vous dis mille merci parce que je suis ravie d'être sur le plateau. Damel dit enfin, une fois.
Enfin, voilà. C'est vrai, depuis le temps qu'on voulait la voir et on l'a eu ce matin pour notre plus grand bonheur. Avec moi également dans les studios d'LG Chaîne 3, Lydia Ladjouzi, que j'accueille toujours avec autant de plaisir. Merci d'avoir
le
dit oui.
Le plaisir est partagé, ML. Ah, c'est un réel bonheur d'être là et de pouvoir parler de toutes ces expériences.
Magnifique. Et Shahrazad Bouhadi de la librairie Tout Compte Lu, merci.
Merci.
Shahrazad, qui va nous conter des choses ce matin en direct sur les ondes d'LG Chaîne 3. Un grand bonheur en tout cas de vous avoir avec nous. Alors évidemment, durant ce mois de Ramadan, on a pratiquement toutes et tous suivi beaucoup de séries sur petit écran. Et il y en a une, on est bien d'accord, qui a été la série qui a marqué ce mois de Ramadan. J'en parle pour la deuxième fois dans l'émission Ma'akoum fi Ramadan parce que j'ai eu le plaisir d'accueillir Mohamed Ourlis, donc celui qui a joué le rôle de Mourtal dans la série. Et aujourd'hui, vous, Feriel Ghasmi Siyahem, vous qui aviez signé ce magnifique décor exceptionnel. Je crois que c'est je l'ai dit la dernière fois avec Mohamed Ourlis, le décor finalement devient un personnage quand il est aussi aussi important et aussi bien fait, j'allais dire.
Bon, je sais pas s'il est bien fait, j'espère qu'il est bien fait. Après je parle pas au singulier parce qu'il y a eu 120 décors quand même sur ce sur cette série qui nous a donné beaucoup de fil à retordre et a été très complexe, très très longue surtout. Vous avez parlé de Mortar, c'est l'un des personnages, mais en fait tous les décors devaient suivre un peu le schéma narratif du scénario et devaient surtout servir et aider les personnages à évoluer dans leur univers. Et c'est dans cet esprit que nous avions, c'est un travail qui a été fait quand même en grande préparation avec toute l'équipe et surtout à la tête de ce projet bien sûr le réalisateur Jaafar Ghasem. Avec qui nous avons beaucoup travaillé en amont et pendant le tournage pour tenter de nous rapprocher au mieux sur ce qui pouvait aider justement ce récit.
Alors c'est un projet quand même qui mélange technique et surtout créativité. Comment vous pouvez parler de votre signature artistique, parce que il y a quand même une part de créativité, même si c'est un film historique, donc on est tenu quand même de mettre en avant un décor qui nous fait plonger dans cette période de l'Algérie, de la Kasbah, le Maharoussa en 1830. Il y a quand même aussi une part de créativité. Vous êtes d'accord avec ça, Feriel Ghasmi et Siyah?
Mais il le faut de toute façon, parce que même si bien évidemment on est obligé d'être fidèle à certains symboles et à certaines images un peu qui sont dans notre imaginaire collectif sur l'idée qu'on se fait de la Kasbah à l'époque, des intérieurs à l'époque, des extérieurs de l'époque. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une nouvelle génération et essayer de tenter de les porter avec nous, de les emmener avec nous. Et donc l'avantage aussi de la fiction, que ce soit au niveau du scénario ou de l'histoire elle-même, c'est qu'on peut aussi se permettre certaines choses. Je donne souvent l'exemple de l'intérieur de Dar Ali, qui est un personnage issu d'une famille venue de la Kabylie et qui vit au cœur de la Kasbah. On avait opté directement sur ce bleu profond sur les murs. On sait pertinemment que dans la vraie Kasbah, on n'a pas d'intérieur bleu comme ça. Et pourtant, ça a super bien matché dans quand on voit les images, comment elles se succèdent. Et bien évidemment, il y a des choses sur lesquelles il faut pas tricher. On peut pas aussi se permettre aussi des libertés qui soient de la fantaisie. Ça, par contre, il faut faire très très attention. Ça plairait pas à tout le monde.
Pour rester dans l'authenticité finalement des lieux à cette époque-là. Ouais. Et donc du coup, ça doit demander beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, de recherche, donc, pour pouvoir se rapprocher le plus possible de la réalité, que ce soit pour les tenues, que ce soit pour la vaisselle, parce que on a vu beaucoup de moments de partage de nourriture, par exemple, des dîners, des soirées, des RS, etc. Mm-hmm. Et il fallait mettre en avant justement toute cette vaisselle qui avait existé à l'époque, tout en respectant justement l'authenticité. Ça a pris beaucoup de temps, la recherche, pour pouvoir coller à la réalité.
Alors, ce qui était bien dans ce travail, dans ce projet, c'est que quand moi j'ai rejoint l'équipe de préparation du film, à savoir le réalisateur, entouré de son atelier d'écriture déjà, et ils avaient fait un formidable travail déjà de pré-recherche. Donc, c'est important pour moi, quand je rentre sur un projet, de connaître un peu les attentes. Et donc, on m'a vraiment transmis des visuels, des choses comme ça, des univers sur lesquels ils voulaient travailler. Bien évidemment, j'ai un peu mis un peu ma patte là-dessus. On ne peut pas suivre comme ça aveuglément les choses. Il fallait que ça soit cohérent. Et bien évidemment, vous avez parlé d'accessoires, de vaisselle, et puis même le patrimoine culinaire. On a énormément travaillé sur ça. Et il fallait absolument que tout corresponde. Et l'idée, c'est comme je vous ai dit au départ, c'est vraiment que tout soit cohérent avec le département costume, parce que bien évidemment, quand un personnage rentre dans un décor, que ce soit en extérieur ou en intérieur, toute cette palette de couleurs ou de textures en costume devait aussi évoluer de manière très naturelle dans des espaces physiques. Et tout ça, ça nous a vraiment donné un peu de fil à retordre, c'est vrai.
J'imagine. Mais quel bonheur aussi de mettre en avant cette magnifique, cette belle casbah, le Maharosa, comme on l'appelle, notre patrimoine, pas algérois, mais algérien, parce que c'est important de le dire. C'est aussi un hommage à la casbah d'Alger à travers ce film et tous les décors qui ont été installés, Feriel Ghasmi et Siyahem.
Ah ben c'est clair, le message a été clair et surtout, vous m'avez tendu une perche, il faut bien comprendre que c'est la première fois en Algérie qu'on construit un vrai décor de casbah, ça n'a jamais existé. Ouais. On sait que les réalisateurs et les producteurs triment à tourner dans la vraie casbah, c'est très compliqué par rapport à l'aspect géologique du site et surtout tournable pour des raisons de logistique. Et on a eu un très important travail de restauration, de réhabilitation des douairettes qui se situent à Sidi Farouj, qui sont le projet de village des corsaires du célèbre architecte Fernand Pouillon. Donc on a vraiment exploité tous ces sites-là et collé les uns aux autres. C'est un hommage à la casbah, tout à fait.
Quel est le décor qui vous rend le plus fier finalement, ou qui a été le plus compliqué à réaliser, ou une fois fini vous êtes dit bah, voilà, on a réussi et we are proud.
Ben, je sais pas, parce qu'on n'est jamais satisfait du résultat, faut pas croire. Hein. Non.
Moi, vous êtes perfectionniste.
Moi, aujourd'hui, quand je vois la série, je suis très heureuse, mais je fais partie de ceux qui trouvent à redire plein de choses. Je pense que même l'équipe de tournage et tout le monde, parce qu'on était dedans. Mais par contre, si je dois parler de complexité, c'est surtout les phases de travail. On a travaillé de manière tellement intense, avec un rythme tellement intense. On est au mois de Ramadan passé, on était en plein chantier de la construction de la casbah c'était Sidi Farouj. Et ensuite, on a travaillé sous une canicule de 50 degrés pour construire la casbah. Ça veut dire que ça a été dur dans le sens que quand une équipe rentre tourner dans un décor et que vous savez qu'il ne vous reste pas beaucoup de temps pour qu'ils arrivent, qu'ils vous rejoignent sur le prochain décor, vous êtes sur un rythme de travail effréné à tel point que moi, d'habitude, sur les tournages, j'ai un peu le privilège d'assister au tournage et de rencontrer les comédiens. Mais c'est le premier projet où j'ai rencontré les comédiens à la fin du tournage parce qu'on n'avait jamais le temps de se poser. Et voilà, donc c'est un peu ça.
Et quels sont les retours aujourd'hui après que la série elle a eu un succès fou, il faut le dire, hein. Elle a beaucoup plu, il y a beaucoup de retours positifs autour de vous. On dit quoi, enfin dans le staff qui a travaillé le décor avec vous et vous-même qui êtes à la tête de cette équipe,
Ah non, mais l'équipe de déco était formidable. Ils étaient une trentaine. On avait une dizaine de stagiaires. Ils sont fiers d'avoir accompli des choses comme ça. Et on a travaillé peut-être avec beaucoup de comment dire, ça a été très intense et dur, mais avec beaucoup d'affection et d'entraide entre nous. Ils sont très fiers. Vraiment, ils sont très fiers. Ils ont hâte de relever des défis comme ça. Mais aussi, moi, c'est les retours de mes confrères et consoeurs architectes, experts en monuments, qui étaient pour moi toujours présents en tête parce que quand on vous dit, il faut avoir un décor de casbah, vous savez pertinemment que derrière aussi, vous avez le regard des experts. Ouais. Et avec beaucoup de bonheur.
Et ça critique.
Et ça critique. Et avec beaucoup critique de bonheur.
Critique constructive, oui, mais ça critique quand même. Donc, quand il y a quelque chose qui ne va pas,
ah oui, c'est clair. J'ai été très vigilante là-dessus. J'ai été très vigilante sur la représentation des aspects architectoniques, sur certains éléments patrimoine, comme les fontaines qu'on a voulu sciemment représenter, comme la fontaine, par exemple, de Sidi Abd al-Rahman à la Casbah. Oui. On l'a vraiment reconstituée. Mais ça, c'est des petits exemples. Mais quand j'ai le retour des experts en monuments, des architectes qui font de vrais projets de réhabilitation, de restauration du vieux bâti, me faire des retours extraordinaires, moi je dis vraiment, voilà, c'est une grande satisfaction.
Vous avez vu la série
Shahrazad, c'était formidable. Et...
Qu'est-ce qui vous a plu le plus?
Alors, évidemment, le décor, parce que c'est très important. Hein, c'est comme vous l'avez précisé au début, c'est vraiment un personnage, le décor. Mm-hmm. Donc, c'était vraiment... Waouh, on a quand même pu... parce qu'en fait, surtout quand on nous raconte des choses, moi, par exemple, ma grand-mère me racontait beaucoup de choses par rapport à comment on vivait à l'époque, à la Casbah et tout ça. Et on revoit tout ça en images. On se dit quand même... Bravo, c'est costaud. Vraiment, ça, c'était... on sent qu'il y avait du travail derrière et que c'est vraiment un travail d'équipe et qu'il y avait beaucoup de personnes qui ont travaillé, que ce soit le décor, l'histoire, les personnages, comment ils ont été choisis, leur rôle. Et cette diversité, c'était vraiment très riche. On voyait vraiment... parce que moi, on me racontait qu'il y avait, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, des familles kabyles... Pardon. Il n'y avait pas vraiment que des personnes, que des Algérois.
Oui.
Voilà. Alors, mais la Casbah est un melting pot de beaucoup de gens.
Ce n'est pas tout le monde qui le sait.
Biskra, de Kabylie.
Mais ce n'est pas tout le monde qui le sait parce qu'il y a des personnes, surtout dans les autres régions, les gens croient que la Casbah, c'est les Algérois. Alors, quand on a vu on s'est dit, finalement, on a fait attention à tout.
Oui, tous les détails ont été pris en compte. Oui.
Et ça, c'est le travail de la scénariste, des co-scénaristes Mira Gassem et Salah Chibani, qui ont vraiment travaillé sur cette manière de représenter la Casbah par justement cette étude
d'anthropologie. Il y avait de la recherche, j'ai vu.
Tout à fait.
Il y avait vraiment une recherche sur des documents, des archives. C'était pas vraiment une série faite comme ça sans voilà, donc en tout cas je vous félicite, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous sur le même plateau aujourd'hui.
Ça c'est les retours en direct sur les ondes d'LG Chaîne 3, mais c'est vrai que pendant toutes les pendant les 23 parties de la série, en tout cas on a été plongé dans une Casbah de 1850 avec tout ce qu'il y avait à cette époque-là. C'est une immersion pour nous le téléspectateur derrière son écran. Exactement, vous nous avez fait rêver. Finalement, un bon décor, il apporte beaucoup. Il apporte quoi spécialement à une série ou à une œuvre audiovisuelle, Feriel Gasmi-Sierre?
Mais vous l'avez dit, un décor, c'est aussi un personnage, comme les costumes sont des personnages. En réalité, quand vous parlez avec... hier encore, je discutais avec les comédiens de Fatma et qui me disaient, quand on entrait dans les décors et qu'on portait les costumes, on était déjà dedans le personnage qui était... Parfois, pour certains, c'est des rôles très complexes. Oui. Et l'idée, c'est vraiment de les embarquer justement dans leur propre univers et qu'ils s'approprient justement leur propre rôle et qui vraiment facilite finalement leur jeu d'acteur et d'acting. C'est hyper important, le décor. C'est primordial.
Primordial pour une œuvre audiovisuelle ou une œuvre même cinématographique. C'est très important. Moi, j'ai adoré. Oui, Lydia?
Moi, je dirais encore plus, ça donne un aspect très professionnel.
se mettre dans un décor qui est chargé d'histoire, non seulement le l'acteur se sent habité, c'est-à-dire visuellement, il ne voit pas de défaut. Donc, il est dedans.
Oui, il est à fond dans
ce qu'il est en train de faire.
Et puis, c'est un respect. En fait, moi, j'ai tendance à un peu être un peu très, très soucieuse du détail. Et j'ai cette idée de respecter les comédiens et de ne pas les mettre, bien évidemment, et le réalisateur tout à fait, au départ, et de mettre un comédien dans un espace où il est assez heureux de jouer. Parce que le mettre dans un coin comme ça, parce que souvent, on a des décors un peu bidouillés.
Oui, effet clown, comme
C'est hyper important. Mais il n'y a pas que dans des décors d'époque, mais même dans un décor de fiction futuriste ou autre. C'est, il faut pousser, en fait, le détail.
Le détail.
Il faut être exigeant et rigoureux. C'est un peu l'état d'esprit dans lequel tout le monde devrait travailler, en réalité.
Exactement. Voilà. Être professionnel.
Moi, j'ai adoré tout dans le film, mais les patios, c'était je trouve des moments assez importants dans la série,
les
cadettes, voilà, ouais, de l'époque, que ce soit pour les fêtes ou juste pour les repas entre familles. Les patios, c'est moi, en plus j'adore cet endroit dans dans un borj, une maison de la Casbah. Je trouve que c'est un lieu qui dit beaucoup de choses.
Mais tout à fait, les patios, c'est vraiment le lieu de rencontre, le lieu de passage, le lieu où tout se passe.
Tout se passe exactement
dans la vie d'une famille de la Casbah. Et le patio, les patios en italien,
italien,
a toujours existé un peu dans toute la culture méditerranéenne.
Tout à fait.
C'est un espace tellement chargé d'histoire, ça raconte l'histoire d'une famille finalement. Mmh. Et nous, dans l'avantage de Fatma, c'est qu'on avait des patios à ciel ouvert, c'est-à-dire on n'avait pas ces transformations qu'on voit aujourd'hui à la Casbah pour des raisons de pluie ou de on avait vraiment le ciel qui traversait
belle lumière.
La lumière. Mmh. Et puis la lumière, on va remercier Ahmed Talantikit, le chef de la photographie, qui s'est beaucoup amusé. Je pense qu'il a pris beaucoup de plaisir. Et donc, le patio aussi, c'est ce croisement où toutes les histoires dramatiques, heureuses, et tout se raconte un peu dans ce... C'est un peu le lieu ouvert. C'est l'entre-deux entre l'intime et le semi-public, on va dire.
C'est vrai.
Donc ça, c'est très important que toutes les scènes les plus importantes soient jouées là-bas.
Dans le fameux Wustodar. C'est un projet qui vous a fait vibrer, Feriel El Ghasmi, ici à Rome.
Moi, au départ, quand j'ai commencé le projet, je suis vraiment arrivée dans l'idée de me dire « Ah non, mais cette équipe, elle est folle de s'engager dans un projet aussi dingue. Mmh. Est-ce que réellement, ils ont conscience de là où on va ?»
Dans quoi ils nous embarquent, Jafar Ghasmi ?
Et surtout qu'il y avait un timing clair. Et bon, après tout, je les ai vus, je me suis dit « Tiens, ils y croient, et puis il faut que j'y croie avec eux. »
Oui, bien sûr.
Et bien évidemment, au fur et à mesure que ça prenait forme, ça commençait à faire vibrer quand les choses prenaient forme.
Oui.
Parce que quand on rentre et qu'on est dans un chantier, on se dit à quel moment vraiment j'ai très envie de voir à quoi ça va ressembler. Est-ce que vraiment c'est ça qui va... On s'attend toujours à des mauvaises surprises en fait par rapport à l'idée qu'on se fait. Parce qu'en amont, on prépare beaucoup de cahiers de décors, beaucoup de simulations. Ça reste un peu des choses qu'on fait sur papier ou sur écran, mais c'est pas du réel. Mais oui, ça nous a fait vibrer jusqu'à la fin. Et ce qui nous a fait le plus vibrer, c'est le jour où tout le monde, je dis bien tout le monde, découvre la première partie de Fatma, parce que nous, on était dans le travail, finalement, on ne savait pas trop à quoi ça allait ressembler. Et voilà, c'est peut-être le premier jour qui nous a fait la première partie qui nous a fait le plus vibrer.
Et vous l'avez vu sur petit écran ?
Tout à fait.
Oui.
Chaque jour.
Vous avez découvert votre série, celle dans laquelle vous vous êtes donné à fond par rapport au décor sur petit écran. Et la fin de la série était aussi exceptionnelle. Donc, un grand bravo à Jafar Ghasmi, évidemment, et à toute son équipe, et à vous pour le décor. Vous restez avec nous, l'émission se poursuit jusqu'à midi, évidemment. On va parler de conte dans un petit moment. La Casbah, le conte, ça peut. Il y a un lien direct là qui va se faire.
On est dans le thème,
là. Juste après, Yuma.
أشقمت الحياة في وسط الطغيان كلها دول وبهتان
سجونا بعون المولى نمشي على مسار قليل
Voilà, ça c'est la chanson de la dernière partie hein, de la série. Fatma, merci de rester avec nous dans Maakoum Fermdan jusqu'à midi. On va parler de toute autre chose, même s'il y a un lien direct hein, avec la Casbah. C'est vrai que dans le temps, les grands-mères racontaient des histoires aux tout-petits, ou les grands-pères racontaient des histoires aux tout-petits, comme ça, une soirée de Ramadan ou pas, mais il y avait les petits-enfants qui venaient dans ce fameux patio dont on parlait, et on racontait des histoires. Tout compte lu, ça c'est votre librairie, Shahrazad Bouhadi. C'est un lieu dédié au plaisir de la lecture. Vous êtes vous-même une amoureuse de la lecture depuis votre jeune âge.
Oui. Alors, je tiens à préciser que Tout compte lu, c'est une librairie spécialisée dans le livre d'enfants.
Oui, pour enfants. Oui.
Pour enfants. Et oui, je vais rebondir donc sur la première, enfin sur l'introduction. Il y a mine de rien encore des grands-mères qui racontent des histoires.
Oui, oui, oui.
Il y a des grands-mères qui racontent des histoires.
Il y a même des mamans, il y a même des tantes qui racontent des
mamans,
des histoires.
Oui, des mamans. des mamans, c'est souvent les mamans qui racontent les histoires, mais c'est vrai que ça n'a pas le même goût quand c'est la mamie qui raconte. Voilà. Après, j'ai aussi beaucoup de personnes qui demandent des livres pour enfants qui parleraient du patrimoine algérien. J'ai beaucoup de demandes, surtout les gens qui vivent à l'étranger, quand ça parle de la Casbah, quand ça parle des histoires hein, de notre patrimoine
Les légendes,
culturel,
les contes,
moral.
L'Unjab Ndrol, par exemple, l'histoire de...
Oui, exactement. Donc, voilà. Oui, je suis passionnée de la lecture. Chez moi, on lit beaucoup. À la librairie également, je me retrouve à lire des livres pour enfants. Maintenant, je lis que des livres pour enfants pour pouvoir justement pouvoir les conseiller. Parce que souvent, les enfants, ils sont là avec leurs parents, surtout quand c'est les premières expériences, on demande beaucoup l'assistance des libraires. Donc, je suis obligée de lire pour pouvoir conseiller. Voilà. C'est très important, hein. Je suis là d'ailleurs encore une fois pour rappeler aux parents que c'est important, la lecture, elle a une place très très importante dans la vie des enfants surtout. Mm-hmm. C'est le plaisir de lire qui va créer cette habitude et les parents ont un rôle très important aussi. Il ne faut pas attendre l'école, c'est pas académique, hein. La lecture c'est vraiment un plaisir, il faut que ça commence à la maison.
Initial à la maison.
Même,
oui.
Avant même que l'enfant sache lire, il faut commencer par les petits contes, les histoires du soir, essayer de la.
Ça nourrit l'imaginaire en fait des enfants.
Mais c'est ça.
Ça permet aux enfants de rêver. Et je recevais il n'y a pas très longtemps une psychologue qui nous disait sur les ondes d'Alger chaîne 3, il faut laisser les enfants s'ennuyer pour pouvoir ensuite créer des choses.
Exactement, c'est très important.
Et la lecture peut justement être vraiment la parfaite, le parfait compagnon pour justement laisser libre cours à l'imagination. Oui. Lire un livre et imaginer une autre fin. Mmh. Ça permet vraiment d'aller très loin.
On fait justement des ateliers dans ce sens. On fait des clubs de lecture où je demande aux enfants d'imaginer une autre fin, d'imaginer un autre personnage, de réécrire l'histoire. Si le personnage n'était pas gentil, s'il était vraiment méchant dans l'histoire, c'est quoi la fin d'après toi, comment elle aurait été, etc. Et oui, donc là, ça nourrit l'imaginaire. Et je le vois, moi je remarque les enfants qui lisent beaucoup en laissant vraiment confiants. C'est des enfants qui s'expriment bien, qui parlent, qui prennent la parole. Mmh. Ça, vraiment, c'est important pour enrichir aussi le vocabulaire, pour construire...
La petite personnalité, on prend confiance en nous quand on lit et qu'on raconte une histoire.
C'est ça.
On arrive à parler devant un auditoire.
C'est ça.
Ouais, c'est quelque chose, ça.
C'est un moment où moi, je conseille souvent les parents. Il y a deux moments très importants dans la journée. Il faut lire, surtout maintenant, c'est les vacances. Donc, il faut vraiment en profiter.
Justement,
on sort
oui.
de la lecture académique obligatoire où l'enfant, souvent, on voit ça comme une punition. C'est plus la lecture, là on lit vraiment pour le plaisir de lire.
Alors justement, là vous me tendez une perche pour pouvoir vous poser cette question. Pendant les vacances qui arrivent, juste après les rides, les enfants sont en vacances, comment les éloigner de cet inévitable écran qui devient de plus en plus imposant dans nos vies au quotidien, le papa, la maman, les enfants, l'oncle, la tante, le grand-père,
éviter la
grand-mère
avec l'écran.
Comment est-ce que les livres pourraient-ils devenir attractifs pour les éloigner de ces écrans justement? Comment rendre un livre intéressant, vous qui êtes libraire?
Alors à ce sujet, je vais peut-être donner un conseil qui n'engage que moi. Je ne suis pas spécialiste, encore une fois. Je donne juste mon expérience avec les enfants et avec mes enfants aussi. On ne peut pas éloigner l'enfant de l'écran. À 100%, hein, je dis. C'est compliqué, il faut faire l'équilibre. Mm-hmm. C'est très compliqué parce que après, c'est l'époque. On est vraiment la technologie vit avec nous, on peut pas la mettre de côté. C'est on peut peut-être l'utiliser de la bonne façon, apprendre à l'enfant.
Que ce soit une technique, une technologie qui nous apporte.
Exactement, il y a des moments où on peut leur laisser le choix entre un livre et une tablette, c'est pas grave, mais il faut aussi les inciter à lire et il faut aussi les accompagner, encadrer tout ça. La lecture le matin au réveil, c'est important. Ça permet de vraiment préparer l'enfant. Déjà, ça apaise. Donc, ça apaise, ça le calme et il commence sa journée sur vraiment une bonne base. Mmh. Voilà. Et avant de dormir aussi, c'est important la lecture. Le conseil que je donne également, c'est qu'il ne faut pas obliger l'enfant. Il ne faut pas lui dire « pose ta tablette, va lire » parce que
ça devient une contrainte.
Voilà.
Oui,
dans la tête,
on
m'oblige à lire, donc je ne vais pas lire. Mmh. Voilà. L'accompagner, peut-être le ramener justement dans une librairie, lui dire « tu veux quoi ? Regarde, il y a plein de
choisis
livres. »
Choisis un livre.
Choisis ton livre. Le choix du livre est important. Il faut vraiment que ce soit l'enfant qui choisisse son livre. Ses centres d'intérêt, la langue préférée. Hein. On ne peut pas obliger un enfant de lire en arabe alors qu'il est francophone ou en français alors qu'il a du mal avec le français. C'est important aussi. Il y a des parents, moi je conseille les parents, sur place, non, t'as plein de livres en arabe, essaye de lire en français. On l'oblige pas, c'est pas de cette façon.
Ouais, qu'on va l'emmener à aimer la lecture.
Exactement. Donc, oui, accompagner l'enfant, lui demander son avis, le laisser choisir son livre. Mm-hmm. Et puis, c'est important qu'il voit aussi le livre dans son quotidien. Si on voit les parents, si les parents lisent, automatiquement, naturellement, l'enfant...
Oui, ils reproduisent. C'est la reproduction directe de ce qu'on fait.
Voilà. Donc, une maman sur son téléphone ne peut pas demander à son fils d'aller lire. Donc, faut déjà qu'on pose nos téléphones. Bah,
charité bien ordonnée commence par soi-même, c'est ce qu'on dit. Donc, si on demande aux enfants de poser leur téléphone, bah, les parents seraient aussi sympas aussi de les poser et de se consacrer un peu à leurs parents, à leurs enfants, pardon, ça c'est très important. Quels sont les livres ou les, généralement les genres de livres qui fonctionnent le mieux avec les enfants aujourd'hui, Shahrazad Bouhadi?
Historique. Franchement, je ne vois pas, il n'y a pas vraiment
quand on
une
vient,
catégorie.
Quand les enfants viennent chez vous, ils demandent quel livre?
Ils ne demandent rien, ils regardent les
ils regardent,
généralement,
d'accord.
Ils font tout, ils regardent, on voit vraiment les étoiles dans les yeux.
Ils regardent tout et après ils choisissent.
Oui, il y a des enfants qui demandent conseils. Il y en a qui choisissent parce que la couverture est jolie, parce que l'illustration est attractive peut-être. Ça dépend après les âges, hein, parce qu'on a des enfants qui lisent quand même des romans jeunesse. Ils ont déjà commencé à développer leur goût, la fantaisie, voilà, des choses comme ça. Donc oui, il y a pas, je pense qu'il n'y a pas une catégorie spécifique, mais le conseil et l'accompagnement, c'est important.
C'est très important.
C'est très important.
Et est-ce que durant ces vacances de printemps, au niveau de la librairie Tout Conçu, il va y avoir des activités pour les enfants?
Alors, on compte relancer donc notre session de club de lecture.
Pendant les vacances.
Pendant les vacances. Après, moi, je pense, les vacances, il vaut mieux laisser reposer les enfants chez eux, mais en bonne compagnie. Donc, s'ils se déplacent au niveau des librairies, ils prennent quand même leur petit paquet de livres qui les accompagnent pendant les vacances. Je pense que c'est mieux la lecture chez soi. C'est un moment vraiment intime. Je pense que c'est important de laisser l'enfant avec son livre, de pas tout le temps essayer de lire avec lui, de faire des synthèses, des fiches de lecture, ça commence
non,
un peu.
Non, pas les fiches de lecture pendant les vacances, mais juste le plaisir de lire une histoire, de découvrir des aventures qui pourraient les intéresser. Et puis les clubs de lecture, c'est quand même quelque chose de très c'est intéressant parce que ça pose cette petite graine de vouloir lire plus tard. On est avec les camarades et si on voit un autre qui lit, on se dit bah nous aussi on aimerait lire. Donc ça permet à l'enfant de développer cette envie d'avoir un livre entre les mains et de découvrir des histoires.
Tout à fait. Alors généralement le club de lecture, j'ai vraiment des enfants qui ont l'habitude de lire parce que ceux qui débutent ont un peu du mal à être dans un groupe de personnes qui ont quand même de l'expérience dans la lecture.
Parce qu'il faut lire à haute voix, Shahrazad.
Souvent, oui, des passages. Mais le plus important, c'est qu'ils donnent leur avis.
À la fin.
Leurs avis sur le livre, sur l'histoire. Et c'est là où ça devient intéressant. Parce que ça développe aussi la confiance, hein, où l'enfant est obligé de prendre la parole. J'allais dire en public, mais oui, en petit public, hein, parce que
c'est
on est quand
juste.
Même voilà, un petit groupe.
Et l'esprit de la critique aussi.
Et l'esprit de la critique. Et aussi de se rendre compte qu'on n'a pas tous la même vision. Que peut-être moi, j'ai vu l'histoire, que mon camarade a lu l'histoire autrement.
Comment on voit les choses. Oui, c'est intéressant ça aussi.
L'esprit critique aussi, c'est très important de nourrir ça depuis leur jeune âge.
Magnifique en tout cas. On peut avoir le programme s'il y aura justement.
Tout à fait. En tout cas, sur nos réseaux sociaux, voilà, on partage tout. Donc surtout compte lu sur Instagram.
Moi, j'adore le nom de votre librairie, Tout Compte Lu. Et vous vous appelez Shahrazad. Voilà. Donc vous racontez les histoires. Avec les tout-petits, c'est magnifique. Voilà, les histoires de Shahrazad, comme nous dit, se dire dans le casque. Allez, on va parler à présent d'un joli concept qui a pris forme ce mois de Ramadan et qui va durer justement jusqu'à la fin du mois de mars. Et c'est pour ça que j'ai eu le plaisir de l'inviter ce matin, Lydia Ladjouzi, la boutique éphémère qui va se poursuivre jusqu'à la fin du mois courant. C'est un concept assez intéressant. C'est quoi?
C'est la deuxième année.
Deuxième année, oui.
C'est la deuxième année qu'on fait ça. Donc, c'est au niveau de la galerie d'art Hangar. Donc, au niveau d'un grand centre commercial à Chiraga. Donc, c'est facile à trouver.
Oui.
Et on va dire, l'idée, c'était de faire sortir mes créations de mon atelier et de les présenter dans un bel écrin qui est une galerie d'art. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des créations, voilà, des pièces uniques. mais bien sûr avec une utilité quotidienne, parce que je voilà, c'est de la vaisselle, ce sont des meubles revisités, donc il faut
belle petite touche du patrimoine algérien.
Avec une belle touche de notre patrimoine algérien, algérois. Cette année, je me suis un petit peu concentrée sur Alger, entre le Zellij ou le Hayek ou le Tarbouche. Voilà,
vous avez été inspirée.
Voilà, cette année, je me suis reconcentrée sur Alger. Sinon, je n'oublie ni le sud avec ses belles croix, ni les Touaregs. Bon, il y a toujours ça qui tourne dans ma vaisselle et dans mes personnages.
Est-ce que vous êtes aussi une amoureuse du sud de l'Algérie?
Ah, c'est ma deuxième identité. C'est ma deuxième identité, donc je ne peux pas oublier ça aussi facilement. Mais surtout, c'est de pouvoir présenter mon travail dans un bel écrin. Et ça, j'en suis très fière. Et je remercie les propriétaires de cette galerie de nous mettre à disposition des artisans. Ouais. Voilà, de mettre à disposition des artistes.
Je veux dire aussi que cette galerie, qui est très chouette, c'est une galerie qui ne perçoit aucun.
Ben c'est ça.
Quand voilà, elle laisse l'espace, elle a toute liberté pour ce genre d'événement. Oui. Et ça, c'est très important de souligner, qui n'est pas le cas sur pas mal de galeries à Alger ou en Algérie de manière générale. Donc c'est vrai, un espace commercial, une galerie d'art qui met à disposition son espace pour des artistes comme Lydia et son concept et tout, c'est quand même...
Et chaque mois, c'est important, et c'est ce que je suis en train de dire et de signaler. Et chaque mois, c'est un artiste différent qui peut exposer.
Des événements culturels.
Le petit plus pour le Ramadan, c'est de pouvoir complètement transformer, au lieu de que ça soit des tableaux, parce qu'en général, ce sont des tableaux de la galerie d'art. Là, c'est
Une toute autre installation.
Autre chose, voilà, c'est en l'esprit Reima, chic, comme ils
décor,
le disent eux.
Un décor.
un vrai décor. Et ça... Et surtout, il me laisse la liberté de le faire comme j'en ai envie, comme je transforme tout cet espace-là. Et j'invite vraiment tous ceux qui ont envie de visiter, que ce soit maintenant ou même après le Ramadan, la fin du Ramadan, ça y est, on y est, tout le monde est occupé avec les gâteaux, mais c'est ouvert à partir du deuxième jour de Ramadan. Le deuxième jour de l'Aïd, l'espace est ouvert, donc marhaba bikoum.
Et est-ce que ça va changer justement pour les 10 derniers jours qui restent?
Les horaires, c'est de 11h à 19h.
Je parle de l'installation, vous allez garder
même. Voilà, je garde parce que quand même c'est énormément d'efforts, c'est pas évident de tout retransformer et tout ça. Mais il y aura toujours... Moi, je peins quotidiennement. Je ne peux pas ne pas peindre. Donc, il y a toujours quelque chose de nouveau en création.
Donc, c'est évolutif, quoi.
Voilà. Que ce soit des tableaux, que ce soit de la vaisselle.
Pièce, finalement, raconte une histoire, Lydia Ladjouzi, parce que vous, ce que j'adore chez vous, et je peux le dire, sur les ondes d'Alger, parce qu'on se connaît depuis déjà pas mal d'années, c'est que vous ne reproduisez jamais deux fois le même dessin.
Je ne peux pas. C'est fait à main levée. Premièrement, les mélanges, je les fais limite sur place. Donc, même si ça ressemble, on va dire, c'est peut-être des mêmes personnages et tout ça, mais c'est pas forcément la même vaisselle. J'essaye toujours de trouver des pièces. Bon, c'est très très difficile maintenant parce qu'il y a.
C'est ça qui fait la beauté d'un travail, justement, l'empreinte de la main est très importante aujourd'hui. C'est que vraiment, c'est pas un travail en série, c'est pas un travail.
Non, c'est de la pièce unique.
Et donc, bien évidemment, même si elle veut, même si elle, j'imagine un client qui lui
demande. Je veux la même chose.
Je veux 10 exemplaires de ce bol. Ça peut pas être possible. Il y aura toujours, et ça, c'est très beau.
C'est ce qui est. Je peux, on va dire, me rapprocher le maximum, mais ça va être toujours, voilà, de...
Il y aura toujours le petit détail qui fera la différence.
Le petit détail, et même, c'est-à-dire, si on vient vers moi, c'est justement, c'est pour cette touche-là, la touche unique.
L'éclat
si,
de
voilà, c'est, si quelqu'un veut quelque chose limite, aspect semi-industriel, c'est pas chez moi. Donc là, la petite touche, l'éclat de verre,
Ou Sirocco du Nord, on peut le dire aussi.
Ou Sirocco du Nord, ben voilà. Oui. Eh bien, je vais parler de par rapport à ça. L'an dernier, on a mis Tarr en avant. Oui. Le Sirocco du Nord, on l'a mis en avant avec donc ces meubles art déco avec la touche des anciens Hnebel, parce que c'est surtout ça notre marque de fabrique, c'est de mettre en avant les anciens tapis de notre patrimoine sur des meubles, que ça soit des anciens meubles ou des nouveaux meubles. Et et cette fois-ci, cette année, c'est moi. C'est-à-dire, c'est l'éclat de verre qui a été mis en avant. Et j'ai un petit peu mis mon savoir-faire sur plein d'objets pour pouvoir faire profiter aussi aux femmes si elles veulent acheter de la vaisselle qui sort de l'ordinaire.
Voilà. Et puis, c'est un univers incroyable à découvrir.
Plein de couleurs.
Plein de couleurs, comme à chaque fois, avec cette touche du patrimoine qui est toujours présente. Qu'est-ce que vous privilégiez le plus, finalement, par rapport à la matière, par rapport à la technique, Lydia Ladouzi?
C'est simple. Ma spécialité, c'est verre, cristal, porcelaine, inox. Voilà.
Et pour cette boutique éphémère?
Alors, pour celle-ci, c'est le verre, la porcelaine, plus qu'autre chose. Parce que c'est que je ne trouve pas de vaisselle. Comme tu le sais, moi, c'est une très, très grande frustration pour moi. Avant, je trouvais un peu plus facilement de la vaisselle où je pouvais m'exprimer. Là, et maintenant, il y a des restrictions. Donc, c'est un peu plus compliqué de trouver de la vaisselle où c'est facile de peindre. Il n'y a pas déjà de la décoration dessus. Donc, mais j'arrive à
trouver des alternatives.
La même vaisselle, on trouve deux univers dessus différents. Donc, malgré tout, malgré la barrière, j'arrive à donner des vies différentes pour cette vaisselle-là.
Et ça s'est plutôt bien passé pour vous depuis le début de Madame Dan?
Alhamdoulilah.
Depuis le début de la boutique éphémère.
Ce qui me fait plaisir, bon, question achat, pas vraiment. Mais ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont découvert.
Oui.
Parce que, bon, même si ça fait 26 ans que je fais ce métier-là, il y a toujours un nouveau public. Et donc, là, c'est un public qui ne me connaissait absolument pas. Et ils ont
Il y a aussi un regain d'intérêt pour les objets uniques. Ouais. Les gens ont besoin de s'approprier certains objets. Je comprends très bien son univers. Il y a quelques années, il n'y avait pas cet état d'esprit. Bon, je parle là, c'est ma casquette de designer qui parle. Donc, je sais qu'est-ce que cela veut dire et j'imagine ce que Lydia trouve comme difficulté sur ce domaine-là. Mais aujourd'hui, il y a un regain de s'approprier les objets et que ce soit vraiment qu'on soit fier d'acquérir tel ou tel objet. Et je pense que elle a un bel avenir devant avec ce qu'elle fait et tout ça.
Le Mentouch Bledi, parce que ça, c'est un mot qui compte pour moi depuis très longtemps. Le Mentouch Bledi, on s'est battu, nous, les artisans, à le faire comprendre que c'est quelque chose d'essentiel.
De précieux.
Que ça soit en cadeau d'entreprise, que ça soit en cadeau pour les mariages, pour se faire plaisir soi-même, décorer sa maison, aller vers le Mentouch Bledi, la création algérienne, parce que maintenant, les artistes les artisans deviennent de plus en plus professionnels.
Ils gagnent en qualité.
Qualité.
Parce qu'il y a quelques années, je peux vous dire.
Voilà. Mais maintenant, la nouvelle génération, quand même, elle se professionnalise.
Oui, tout à fait.
Donc, les gens, ils achètent plus facilement des créations algériennes. Ils se disent, voilà, c'est pas, ça va, la peinture, en deux secondes, elle va partir. C'est de la camelote et tout ça. Non. Ça nous fait plaisir. Je parle pas de tout le monde, mais quand on va vers un artiste ou un artisan professionnel, on sait ce qu'on achète maintenant.
On sait ce qu'on achète et du coup, on a changé la façon d'aborder cette création, oui. cet objet d'art finalement, parce qu'avant on se disait, ah, c'est quand même cher. Mais quand on sait qu'un artisan, c'est son savoir-faire qu'il met dans cette chose qu'il
crée. Par rapport
crée,
à ça, voilà, justement,
ça a changé aujourd'hui.
Tu as ouvert un aspect très important. On oublie que les objets qui sont importés, ils sont fabriqués d'une façon limite industrielle à des coûts très très bas. Nous, ce qu'on fait en Algérie, il ne faut pas oublier qu'on le fait sur une matière qui coûte déjà un certain prix. Mm-hmm. C'est notre limite. Nous, on aurait bien voulu les faire le prix le plus bas. Bon, on ne parle pas du côté pièce unique et tout ça, la création artistique. Mm-hmm. Parce que
c'est important de parler de la création artistique.
Non. Ça, c'est une partie que la majorité des artisans, ils zappent ça. Parce que si on devait mm-hmm. réellement calculer la pièce unique, ce serait encore plus cher. Mm-hmm. Hein. On fait un effort sur nous-mêmes pour mm-hmm. pouvoir diminuer les prix. Hein. Mm-hmm. Que ça soit, on va dire... Moi, je le dis, mes créations, j'essaie de les mettre à la logique du pouvoir d'achat algérien.
Oui.
Et tu, voilà, t'es la première cliente et tu sais que mes prix, j'essaie toujours de les calculer pour que ça soit sur le pouvoir d'achat algérien et je zappe tout cet aspect pièce unique création. Ça mm-hmm. me fait très mal au cœur. Je peux le dire. Hein.
Mais en même temps, vous mettez en avant le patrimoine algérien et ça, c'est quelque chose aussi qui vous tient à cœur.
Ah, ça c'est sûr.
C'est essentiel.
Ça c'est assez sûr. Je n'ai aucun doute sur cette partie, cette fierté. Quand un client vient, il me dit ah, ça me rappelle ceci, ça me rappelle ça, oui. ça fait plaisir de l'avoir. C'est une très grande fierté. Je ne fais pas ça que pour 26 ans de métier. Oui. Ça fait longtemps que j'aurais abandonné si c'était une question de moyens. Hein.
Mm-hmm. Ou une question d'argent. Est-ce que la boutique éphémère, ce concept-là, il va voyager à travers l'Algérie ou pas? Est-ce que c'est une idée qui pourrait marcher?
Je le fais.
Qui pourrait se faire?
Alors, je le faisais déjà depuis quelques temps. Mais sans me rendre compte,
d'accord.
quand je fais mes expos à Oran, à Mostaganem,
okay.
c'est-à-dire où je prends mes créations oh. et celles de mes amis artisans, sans ramener les artisans eux-mêmes, et je crée un espace où il y a plein d'objets, mm-hmm. sans me rendre compte que c'est limite un petit concept store ouais. itinérant
ouais. voilà.
Bien sûr.
Bah, voilà. Ce serait sympa que cette collection, ou que d'autres en tout cas, voyagent à travers l'Algérie pour pouvoir permettre à tout le monde de profiter
des créations uniques.
Eh bien, j'espère que ça pourra se faire en tout cas. Merci à vous trois. Le temps passe très vite. On arrive à la fin de l'émission. Ça a été un réel plaisir de vous avoir toutes les trois autour de cette table. Merci à Feli El Ghasmi et CRM d'être passés nous voir. Ça a été un plaisir.
Merci beaucoup. Et je souhaite un bon Eid Saadkoum à tout le monde, à toutes les Algériennes et Algériens.
Merci infiniment à vous, Shahrazad Bouhadi. On viendra vous voir durant les vacances scolaires.
Avec plaisir.
Avec grand plaisir pour nous aussi. Et Lydia, la boutique éphémère jusqu'au 31. On passera vous voir aussi.
C'est de 11h à 19h, more l'aide.
Voilà, à partir du deuxième jour de l'aide. Merci à vous trois d'être passés nous voir. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée cette matinée, à Hind Jinhia qui était à la réalisation. Merci à vous, auditrices, auditeurs, d'avoir été au rendez-vous de Maakoum Fermdan. Dans quelques instants, le retour de l'info avec le 12-13. Moi, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain dès 11h pour la dernière émission du mois de Ramadan en compagnie évidemment de Hind Jinhia. Excellent moment sur Alger Chaîne 3 et à demain 11h. I'm
I'm sorry, I'll never.